Alors, je voudrais vous parler aussi de la prolongation de la vie. La prolongation de la vie. Alors là, évidemment, dans la pensée souvent des milieux chrétiens, il y a certaines restrictions. Parce qu'on introduit toujours ce raisonnement humain, cette vue humaine. Qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur ne nous a pas dit de marcher, de raisonner toutes choses par notre logique, cette espèce de moulin à tout broyer, n'est-ce pas? Notre logique humaine est incapable, il faut savoir, n'est-ce pas, de confronter ensemble toutes les données bibliques. Mais si vous faites appel à l'intelligence et la sagesse spirituelle, vous faites appel à l'esprit agissant en vous, alors vous comprendrez. Il y a des choses qui paraissent contradictoires et qui cependant peuvent être comprises comme le Seigneur Jésus désirait que l'on comprenne. Il disait à ses apôtres, êtes-vous donc encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Voyez-vous, il y a une manière de comprendre, a dit aussi Jésus, comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Mais ça, ça ne peut pas se comprendre avec notre petit raisonnement. C'est un grand mal qu'il y a dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église évangélique, on parle de celle-là, n'est-ce pas? On raisonne, on veut tout marcher par le moyen de la raison humaine. Mais non! Le Seigneur a dit, comprenez donc les Écritures et la puissance de Dieu. Et aux deux disciples qu'il a rencontrés sur la route d'Emmaüs, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ils n'étaient pas plus bêtes que d'autres, mais le raisonnement humain fait obstacle à la saine compréhension, à la véritable compréhension. Alors, je vous préviens, chers amis, sachez-le, et ne mettez pas en mouvement le petit moulin à logique humaine, n'est-ce pas? Ce petit broyeur, n'est-ce pas, qui voudrait, lui, n'est-ce pas, tout ramener à la dimension de l'homme. Mais nous sommes à la mesure de Dieu, nous sommes dans les dimensions de Dieu. Alors, on ne peut pas ramener les dimensions de Dieu à la dimension humaine. Donc, il y a prolongation de vie, nous allons le voir, bien que certains enfants de Dieu peuvent très bien quitter cette terre avant d'avoir connu de longs jours, n'est-ce pas? Et c'est une chose possible, je ne parle même pas là de cas d'exception, je dis c'est possible, c'est possible et ça s'est vu, n'est-ce pas? Ça s'est vu, le Seigneur est souverain, c'est évident, souverain sur nos vies, il peut avoir des raisons, il y a des raisons qui tiennent souvent au témoignage, car martyr veut dire témoignage, et il y a les autres raisons de Dieu. Mais disons aussi que l'on a vu des hommes, des chrétiens, aller jusqu'à un âge avancé et servir même très tard. Il y a des chrétiens, des évangélistes ou autres, ou pasteurs, qui ont pu, avec une grande force, servir encore jusque, par exemple, 95 ans. Ben, il y en a qui a 95 ans, je ne pourrais pas vous dire de mémoire les noms, mais j'en ai quelques-uns, n'est-ce pas, qui sont allés à un âge très avancé et qui ont pu garder leur force, leur lucidité d'esprit et leur foi, bien entendu, n'est-ce pas, jusqu'à cet âge-là et continuer de servir le Seigneur. Nous allons voir le psaume 92. Je vous dirai que ce psaume et le suivant, le 93, je les connais d'une façon particulière parce que un jour, il y a cela un certain nombre d'années, le Seigneur me les avait donnés en vision d'une manière particulière. Le Seigneur avait mis un accent particulier sur ces deux psaumes directement dans une vision. Et il y avait attaché une valeur actuelle particulière. Alors, je puis vous le dire, hein, j'ai vu en vision ces psaumes, ces deux-là, dans une vision, hein, vision qui a duré assez longtemps, le Seigneur a insisté sur ces psaumes et il en faisait une chose actuelle. Le Seigneur, Alors, faut pas la peine de me dire, ça c'est pour les juifs autrefois, n'est-ce pas, comme je l'ai souvent entendu dire. Mais il faut se méfier de toutes les paroles d'incrédulité qu'on peut entendre ou lire dans certains ouvrages. Il faut les déchirer, les ouvrages, quand il y a de l'incrédulité dedans. Faut pas les garder. Moi, c'est ce que je fais. Si je me suis trompé dans un achat, je vois un ouvrage, hop, allez, je déchire. Dans le 92, nous avons ceci, au verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler les ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Ce qui veut dire, je n'ai absolument aucune crainte quand je vois des ennemis, quand j'entends les méchants adversaires, ça ne me donne absolument aucune crainte, n'est-ce pas? Mon œil se plaît à les contempler, c'est-à-dire, je n'en éprouve rien, aucune peur, aucune crainte. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, voyez, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Bien entendu, il y a là des conditions attachées, n'est-ce pas, à cette longévité particulière. Planté dans la maison de l'Éternel, il faut être là donc bien établi dans la maison de l'Éternel, faire connaître que l'Éternel est juste, c'est-à-dire ne pas cesser de témoigner, ne pas, n'est-ce pas, se mettre dans un fauteuil et puis se dire, ben maintenant j'en ai assez fait, je m'arrête. Il faut continuer jusqu'au bout. Il n'y a pas de retraite pour le Seigneur. Le Seigneur n'a pas institué de régime de retraite. C'est ça? Non, il n'a pas institué ça du tout. Alors il donne la force pour qu'on continue jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, ils sont pleins de sève pour faire connaître que l'Éternel est juste. Mais s'ils s'arrêtent, alors là, n'est-ce pas, le Seigneur n'est pas lié par cette promesse si eux, ils s'arrêtent. Mais s'ils ne s'arrêtent pas, voyez, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, et puis le Seigneur les prendra comme il a pris Moïse, comme il en a pris d'autres, n'est-ce pas, quand l'heure sera venue. Nous avons aussi le psaume 103, verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Mais que ceux qui sont passés à l'onction d'huile là maintenant veuillent bien noter ça au passage. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Cela, n'est-ce pas, est toujours... Tous les psaumes sont ainsi, si on lisait tout le psaume, vous verriez, n'est-ce pas, ce sont les justes de l'Éternel, ceux qui se tiennent dans la justice et bien entendu dans le témoignage. Hein. Alors, ici, qui guérit toutes tes maladies, il y a toujours des gens fâcheux à cause de leur incrédulité, vous savez, des incrédules, n'est-ce pas, qui passent pour des gens de foi, et alors qui ont toujours une parole pour restreindre la portée des Écritures. Alors, il y en a qui disent, oh, mais toutes tes maladies, il s'agit de maladies spirituelles, il s'agit de péchés. Eh bien, dans l'hébreu, n'est-ce pas, textuellement, il y a ceci au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. Le mot le plus exact, c'est infirmité, mais il s'agit d'infirmité du corps. Infirmité, ça touche à maladie, notre traducteur a préféré maladie, mais enfin, il s'agit de mots physiques. Il s'agit bien de mots physiques dans le texte original. On n'a pas le droit de changer quelque chose à la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 10, « Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. » C'est ce qu'on traduirait dans le langage de Christ, « Si vous gardez mes paroles et si vous demeurez en moi, ben, demandez ce que vous voudrez. » Alors, vous me direz, mais ça, je vous me direz pas vous, j'espère, mais certains disent, ah oui, mais ça, c'était pour les dispensations antérieures. Avec cette histoire de dispensation, on nous en fait des choses, des malheurs. Mais pour la dispensation de l'Église, maintenant tout est spirituel, alors les gens, n'est-ce pas, n'ont plus accès à ces promesses-là. Alors, il faudrait croire que dans le temps de l'Église, nous, sur le plan de la vie actuelle, le Seigneur nous a laissé l'accablement des maladies, de toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Mais j'ai entendu ça, chers amis, je l'ai entendu, mais combien de fois j'ai combattu? Alors, je vais vous montrer que c'est pas vrai. On fait souvent d'autres objections, je vais en parler, mais je vais vous montrer que cette objection-là est absolument fausse et déshonorante. Par conséquent, le Seigneur, parce que quand on touche à la parole de Dieu, et par le moyen de l'incrédulité, on déshonore Dieu. Nous allons voir 2 Corinthiens, chapitre 1er et verset 20. « Car pour tout ce qui concerne » une partie des promesses de Dieu, c'est ça? Non. Pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen. C'est-à-dire l'amen, c'est en vérité. Hein? En vérité, en réalité. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, le oui, c'est-à-dire l'accomplissement, est en Christ. Alors, nous avons le droit de dire quelque chose là-dessus. Et puis, nous allons lire dans la première épître, alors ça c'est bien dans le Nouveau Testament, ça, c'est bien pour l'Église, n'est-ce pas? Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 3, et verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, là, il s'agit de la terre. Il s'agit de la terre. Précédemment, il a parlé de la vie éternelle, mais là, il s'agit de la terre et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ça, c'est bien dit à l'Église. C'est dit à l'Église, n'est-ce pas? Précédemment, il y avait, au verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, c'est cela, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Afin d'hériter la bénédiction, et si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Ce qui était dit autrefois au peuple d'Israël n'a pas été révoqué, ça se trouve dans un autre contexte, dans une autre alliance, dans une autre dispensation, celle de la grâce. Mais ça n'a pas pu être révoqué. Le Seigneur ne peut pas revenir en arrière. Dire autrefois, si les enfants d'Israël étaient fidèles, je leur épargnais toute maladie. Les maladies, c'était pour les Égyptiens, hein, mais toutes ces maladies dont je frappais les Égyptiens, eux, ils en étaient épargnés. Le voyez dans le chapitre 28 du Deutéronome, les maladies était épargné au peuple fidèle. S'il était fidèle, pas de maladie. Il n'en est même pas question. Et puis, ils prolongeaient leurs jours, n'est-ce pas? Bien. Eh bien, nous, n'est-ce pas, nous avons maintenant l'accès au royaume de Dieu. C'est la chose qui est nouvelle dans notre dispensation. Les choses nouvelles, on peut les résumer ainsi. L'accès direct au royaume de Dieu, l'accès direct, je veux dire l'accès, oui, l'accès par Christ au royaume de Dieu. Deuxièmement, la communion pour tous, le Saint-Esprit pour tous, répandu sur toute chair, et les lois écrites dans les cœurs, non plus écrites sur des tables de pierre, mais écrites dans les cœurs, n'est-ce pas? Et puis, il y a, n'est-ce pas, alors là, dans la vie éternelle, n'est-ce pas, la vie éternelle, qui bien entendu est promise à celui qui croit, exerce sa foi et vit une vie de sanctification. Par conséquent, n'est-ce pas, nous sommes bien dans l'Alliance Nouvelle avec tout ça, mais les choses dites autrefois ont leur continuation pour toutes les promesses de Dieu. Le « oui » est en Christ, et vous voyez que Pierre ici en fait mention. Alors, cela ne veut pas dire qu'on va préférer cette vie, que l'on va s'attacher à cette vie. Faut pas manquer de sagesse par tout verser d'un côté ou tout verser de l'autre, n'est-ce pas? La sagesse est un équilibre. Alors, l'équilibre, Paul nous en a parlé, quand il nous dit dans les Philippiens, le mieux ce serait que je sois avec le Seigneur maintenant, je serais heureux d'être avec le Seigneur. Mais il faut que je reste encore un temps ici, dans ce monde, eh bien j'y reste. Hein? Mais il n'est pas attaché à cette vie, il ne faut pas que ça détermine évidemment un attachement qui serait une mauvaise chose à cette vie, à la terre. Il faut vivre au contraire d'en haut, mais le Seigneur ne nous a pas promis, ou si vous voulez, annoncé autre chose sur cette terre que des tribulations et des persécutions. De ces choses viennent des souffrances, certes, hein, qui s'ajoutent à celles de Christ, qui continuent, qui perpétuent les souffrances de Christ, n'est-ce pas? Mais il n'est pas dit que nous allons être tourmentés par toutes sortes de maladies et que nous allons devoir arriver à la fin de notre vie, n'est-ce pas, en déclinant constamment. C'est pas dit du tout, pas du tout. Alors, prenons les choses comme elles sont, n'est-ce pas, il est tout de même plus agréable d'arriver à la fin de sa vie. Certes, ce corps vieillit, n'est-ce pas, il y a un vieillissement, mais il ira à son terme sans pour autant être frappé par toutes sortes de maladies. Cela, le Seigneur veut nous l'épargner, sans quoi il ne nous aurait pas donné la promesse de Jacques, par exemple, si quelqu'un est malade parmi vous. Ben, il aurait dû dire, si quelqu'un est malade, mais à condition qu'il soit pas trop âgé, hein, n'est-ce pas? Non, il n'a pas dit cela, le Seigneur. Si quelqu'un est malade, même s'il a 90 ans, eh ben, il vient chercher la guérison. Non pas pour, peut-être durer d'une façon, extraordinaire sur cette terre, mais, parce que il atteindra son terme sans être pour cela obligé de supporter toutes sortes de maladies. Le jour où le Seigneur veut que nous partions, vous savez, moi j'ai vu des gens partir très jeunes et partir dans la paix. Comment la mort s'est-elle faite? On n'en sait trop rien. Enfin, il y a des morts qui se sont faites comme ça. Quand le Seigneur veut, il reprend à lui, puis c'est tout, il reprend son souffle. Il reprend le souffle de vie du corps, n'est-ce pas? Et puis, il reprend l'âme à lui, l'esprit à lui. Nous avons aussi, dans les effets de la sagesse, l'équilibre psychique. L'équilibre psychique, c'est-à-dire l'équilibre, si vous voulez, essayez d'employer un autre terme, l'équilibre mental, moral, l'équilibre aussi, parce que le psychique tient également au physiologique, n'est-ce pas? Alors, l'équilibre de l'état nerveux aussi, n'est-ce pas? Il y aura un équilibre, disons, psychique, équilibre des pensées, équilibre des mouvements de la pensée, voyez-vous, il y aura du calme, de la tranquillité. Alors, cela, nous allons le voir dans divers textes. Proverbe 3, 17. Ses voix, c'est-à-dire les voix de la sagesse. Ses voix sont des voix agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Sont paisibles. C'est-à-dire que la sagesse vous place dans une paisibilité, si je puis dire, n'est-ce pas, dans un état de paix. Vous savez que le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Alors là, nous sommes en plein, n'est-ce pas, dans les promesses directes pour l'Église. Je vous donne ma paix. Hein? Eh bien, la sagesse, la paix de Christ n'est à goûter que comme retombée, si vous voulez, de la sagesse, comme conséquence de la sagesse. Ben, il faut la sagesse pour goûter la paix de Christ. Tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Et on ne peut pas être heureux dans le déséquilibre, mais ben, ils sont heureux. Alors, vous voyez bien qu'ici, il y a un équilibre que j'appelle psychique, un équilibre d'ensemble, n'est-ce pas, spirituel, moral et physique, pas tout à la fois. Et ça, il y a une sorte d'euphorie, de bien-être dans la personne qui crée un état de bonheur, parce que avec la paix, il y a la joie. Et la joie est conseillée, n'est-ce pas? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Donc, il y a la paix, la joie, cet état d'euphorie qui n'est pas artificielle, d'euphorie de nature spirituelle, une retombée spirituelle. Hein, cet état d'euphorie que j'appelle l'équilibre psychique et qui est magnifique. C'est dans cet état que l'on peut vraiment faire le témoignage, n'est-ce pas, et servir le Seigneur, d'une façon ou de l'autre. Alors, dans les Proverbes, chapitre 3 et 21-22, oui. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. » Vous voyez, la vie de ton âme, la vie ardente, la vie abondante de ton âme. Et ça, nous sommes en plein dans le psychisme. Hein, c'est-à-dire le bon psychisme, naturellement. Quand on dit psychisme, généralement un sens péjoratif. Mais non, le psychisme, c'est un état. Il peut être bon ou mauvais, n'est-ce pas ? Et là, n'est-ce pas, il s'agit du bon psychisme. Elles seront la vie abondante, la vie harmonieuse de ton âme. Hein. Ton état psychique sera excellent, tu jouiras d'un équilibre. Excellent équilibre. Proverbe 10, 28. L'attente des justes n'est que joie. Voyez-vous, l'attente, les justes attendent toujours quelque chose. Tant que le royaume des cieux n'est pas là, il y a toujours quelque chose à attendre. Il y a espérance et par conséquent attente. Mais l'attente des justes n'est que joie. C'est pas une attente fébrile. Non, c'est une attente dans la joie, ce que le Nouveau Testament nous recommande. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Voyez, bonheur, être heureux. Alors, comment voulez-vous être heureux et connaître le bonheur avec la paix, la joie, n'est-ce pas? Eh bien, il faut réfléchir sur les choses. C'est-à-dire méditer. Méditer la parole de Dieu. Hein? Réfléchir sur les choses. Je dirais même que c'est plus large ici que parole de Dieu. Méditer sur tout ce qui est sujet de méditation. Par exemple, méditer aussi sur l'état du monde, sur le monde qui nous entoure. Le Seigneur Jésus voyait ce qui était autour de lui. Hein? Et il n'était pas fermé, au contraire. Il voyait les hommes, il les comprenait, il voyait leur malheur, leurs maladies, leurs défauts, leurs tares. Alors, voir le monde aussi évoluer, voir les signes des temps, N'est-ce pas? Puis, naturellement, méditer sur la parole de Dieu, tout cela, la parole de Dieu est au centre des méditations. Alors, celui qui réfléchit, c'est la méditation. Pas lire seulement, mais réfléchir, comprendre, prier pour mieux comprendre, pour pénétrer la parole de Dieu. Celui qui fait ça se nourrit, hein? Et laissez-moi dire, il ne se nourrit pas des choses du monde, n'est-ce pas? Parce que s'il a réfléchi sur le monde, c'est pour y voir apparaître les signes des temps. Mais il se nourrit de la parole dans la méditation, et il ne se nourrit pas, par exemple, de la télévision. N'en parlons pas trop, mais disons vite, n'est-ce pas? Il ne se nourrit pas de la télévision, parce que, mes amis, la télévision, elle va vous procurer aussi un sujet de méditation. Et même, elle va y joindre l'image, n'est-ce pas? Elle y joint l'image, et alors elle vous fait méditer, mais seulement elle vous prive de la bonne méditation sur les choses qui vous apportent une nourriture. Elle vous apporte, elle, la nourriture que certains poissons trouvent dans la vase. Vous savez, les carpes, il y a des carpes, des grosses carpes dans la vase. Ils se nourrissent de vases. Et leur chair, quand on les mange, elle a le goût de vase. Elle a le goût de ce dont ils se nourrissent. Et notre âme aura le goût de ce dont nous la nourrissons. Si nous nous nourrissons du monde, elle aura le goût du monde. C'est pas bon. Si nous la nourrissons de l'esprit, de la parole de Dieu, elle aura le goût de l'esprit. Elle aura un bon parfum, un parfum de Christ. Chers amis, puisque j'en ai parlé, disons-le, la télévision, c'est quelque chose qui contribue au déséquilibre. Ça contribue au déséquilibre, sans que vous puissiez vous en rendre compte. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, vous ne pouvez pas le calculer, c'est simplement par confiance en Dieu, par sagesse, qu'on rejette cet instrument. Mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte du travail qu'elle va faire. Même si vous faites un triage des programmes, ceux que vous conserverez sont quand même des choses pensées par le monde, imaginées la plupart du temps par le monde, en tout cas exposées par le monde, n'est-ce pas? Les vues seront celles du monde, vous y trouverez de toute la diversité, n'est-ce pas, dont le monde aime se repaître. Tout cela, n'est-ce pas, même si les programmes sont considérés comme satisfaisants moralement, ils vous apporteront la nourriture du monde. Enfin, passons. L'équilibre psychique, donc, n'est-ce pas, découle des effets de la sagesse. Il faut que la sagesse, par conséquent, soit entière. Et puis, il y a aussi, toujours dans cet équilibre, et toujours comme effet de la sagesse, une foi, n'est-ce pas, qui débarrasse de la peur. La peur disparaît. Vous savez que la peur chez l'homme, n'est-ce pas, est apparue tout de suite après la chute et que l'homme est pétri de peur. Il y a en lui la peur est là, toute prête à le saisir, à le tourmenter. Évidemment, quand nous sommes ici tranquilles, n'est-ce pas, n'avons peur de rien, ça va bien, mais que quelque chose survienne, n'est-ce pas, suffirait peut-être d'une petite souris qui passe ici au milieu pour que certains déjà aient peur. La peur, n'est-ce pas, est une chose que l'homme ne peut pas dominer. Les hommes qui se croient les plus forts sont aussi en proie à la peur. Eh bien, il y a une délivrance de cela. Nous pouvons le voir toujours dans nos proverbes, chapitre 3 et verset 24. « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux, paisible, doux. » Il n'y aura pas de cauchemar, disons, n'est-ce pas? « Si tu te couches, tu seras sans crainte. » Sans crainte, tu n'auras peur de rien. Rien, tu n'auras pas peur. La peur ne sera pas en toi. Lisons même un peu plus loin, « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » L'Éternel est ton assurance. Tu es gardé, tu es là, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'avoir peur et tu n'as pas peur, la peur s'en va. Vous savez que c'est la peur, le Seigneur Jésus l'a considéré comme un résultat d'incrédulité. Quand ils ont eu peur dans la barque où était le Seigneur Jésus, parce qu'il y avait une grande tempête, n'est-ce pas? Eh bien, ils eurent peur, ils réveillèrent le Seigneur qui apaisa les flots et les vents. Mais après, le Seigneur, n'est-ce pas, s'est tourné vers eux et puis il leur a dit, gens de peu de foi, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Comment pourquoi? Mais c'était terrible, c'était affreux, on allait tous être engloutis. Non, il n'y avait pas à avoir peur. Voyez-vous, et ils ont eu peur, le Seigneur vous le dit, gens de peu de foi, parce qu'ils n'avaient pas la foi nécessaire. Et si, n'est-ce pas, nous avons la sagesse, la foi fera des conquêtes, et notamment, nous exemptera de cette peur. Le psaume 4, verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma douleur. Voyez-vous, une sécurité, un sentiment de grande sécurité apparaît lorsque l'on n'est en communion, fait lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel, ce qui évoque ici la communion avec le Seigneur. Eh bien, qui nous fera voir le bonheur? Mais tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand ils font des récoltes sensationnelles. Hein? Moi, je me couche et je m'endors en paix. Ça confirme ce que nous disions tout à l'heure, et toi seul, tu me donnes la sécurité, j'ai une sécurité qui me vient de toi, et je suis calme, tranquille, je ne suis pas agité, je n'ai rien à craindre, à redouter, je n'ai pas de ces pensées qui viennent me tourmenter même au cours de mon sommeil, et il y a un sommeil réparateur par conséquent, n'est-ce pas, qui est nécessaire à l'homme. Vous savez que le sommeil est infiniment nécessaire dans l'état actuel de nos vies. Eh bien, ce sommeil repose le corps, repose nos nerfs, bien sûr, repose l'âme, n'est-ce pas? Quant au spirituel, l'esprit, lui, il est en action. Mais il ne se fatigue jamais, lui. En nous, il y a quelque chose qui ne se fatigue jamais, c'est l'esprit. L'esprit régénéré est toujours en contact avec Dieu. Il n'y a pas de coupure, même dans la nuit. Hein? Tu me parles dans la nuit, le Seigneur parle dans la nuit, n'est-ce pas? Il donne même ses instructions dans la nuit. Alors lui, il peut agir sur ce qu'on appellerait le subconscient ou l'inconscient, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui le fait, alors là, il peut faire. Il peut, n'est-ce pas, graver en nous des images qui vont se retrouver à l'état de veille. Ça, c'est magnifique, ça vient du Seigneur. Vous voyez, tout ça, n'est-ce pas, ça fait l'équilibre avec ces heureux effets du chrétien, de l'enfant de Dieu, qui a reçu du son Seigneur la paix et la joie. Paix et joie, rien que ces deux mots définissent déjà un grand équilibre. Et nous arrivons maintenant dans l'étude de l'équilibre, l'équilibre physique et spirituel, qui dépendent l'un de l'autre, le physique dépend du spirituel. Nous arrivons à une question qu'il nous faut aborder, celle de la nourriture du corps. Tout équilibre réel vient de la grâce de Dieu et nécessite une vie vraiment spirituelle. Par conséquent, l'équilibre physique ne va pas échapper à cette règle majeure. Tout équilibre réel vient de la grâce de Dieu et il nécessite une vie vraiment spirituel. La vie d'obéissance par la foi et l'amour de Christ auront sûrement pour conséquence actuelle dans ce temps le retour à l'équilibre spirituel, moral et physique de l'homme normal. Il faut toutefois que cette obéissance, notre obéissance, ne soit pas en dents de scie. Ne soit pas en dents de scie, mais se maintiennent avec constance,
une obéissance avec des hauts et des bas, ça ne marche pas. Ça ne peut pas procurer l'équilibre physique, spirituel et physique. Voyons par exemple un verset dans le psaume 119, le verset 44. « Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. » Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Vous savez que ce psaume 119, qui est très long, n'est-ce pas? C'est le plus long. Il a 176 versets. Il était conçu pour être appris par la jeunesse. La jeunesse l'apprenait par cœur, car il contient un ensemble de choses qu'il est bon de savoir et qui permettent une bonne direction de la vie. Alors nous disons donc, je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je garderai. Mais je rappelle encore que le Seigneur a employé ce terme, ce verbe de garder. Garder ses paroles. Donc, il ne faut pas être cet homme irrésolu, inconstant dans ses voies dont parle Jacques. La vie de foi comportera la prudence et des mesures pratiques de sagesse. Voyons ces mesures en ce qui concerne la nourriture du corps. Je vous dis, n'est-ce pas, c'est une question souvent abordée, elle a donné lieu à des vues excessives ou des vues même tout à fait déplacées en dehors du champ de la parole de Dieu, et il est bon de la considérer. Il n'y a pas dans la Bible de prescription rigide concernant l'alimentation. C'est même étonnant de voir, de constater qu'il y a... semble-t-il, il y a tout de même des indications, mais il y a en somme bien peu de choses concernant l'alimentation du corps. Ça, c'est une chose à noter, n'est-ce pas? On sent par conséquent que la Bible n'a pas du tout, quand je dis la Bible, je veux dire, n'est-ce pas, la parole de Dieu inspirée, n'a pas du tout mis l'accent sur cette nourriture du corps. Il n'y a aucun accent mis sur cela. Et c'est souvent d'une manière presque indirecte, secondairement, qu'elle nous en parle. D'abord, elle n'est pas un code. Attention de ne jamais utiliser la Bible comme un code. Mais il y a certains conseils qui doivent être appliqués à l'alimentation. Et par exemple, le premier conseil à appliquer à l'alimentation, c'est celui de sobriété. La notion de sobriété est très, très implantée dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament particulièrement, la sobriété en toutes choses, nous est-il dit. Sobriété. Et le mot dans le grec a également un sens très voisin de vigilance, si bien que certains auteurs ont traduit sobriété par vigilance. Il y a, n'est-ce pas, une connexité entre la notion de sobriété et la notion de vigilance. Nous allons voir certains de ces conseils, par exemple 2 Timothée 4:5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Sois sobre en toutes choses. Bon, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il y a là, n'est-ce pas, une prescription de sobriété, c'est-à-dire d'abstention concernant tout ce qui constitue la convoitise. Or, vous savez que le manger et le boire sont le domaine de pas mal de convoitises. chapitre 4 et verset 7. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Sages et sobres. Là, ici, certains traducteurs diront, soyez sages et veillants pour vaquer à la prière. Mais la traduction sobre est sans doute préférable. Elle montre en tout cas que dans la vigilance, il faut, et pour la vigilance, il faut qu'il y ait la sobriété. Quelqu'un qui n'est pas sobre en toute chose ne peut pas se placer dans la vigilance spirituelle. 1 Thessaloniciens 5-6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ici, nous avons la vigilance et la sobriété qui se côtoient. « Veillons et soyons sobres. » Le verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Par conséquent, la sobriété, voyez, en toute chose, bien sûr, est professée. Voyons maintenant le contraire de la sobriété, c'est-à-dire les excès. Les proverbes nous en parlent dans le chapitre 23, versets 20 et 21. « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. » Nous voyons ici, n'est-ce pas, qu'il y a nécessairement un assoupissement dû à ce que la chair est nourrie ou alimentée, si vous voulez, à l'excès. Il y a donc un assoupissement qui vient et qui empêche la vigilance, bien sûr. Luc 21, 34, et ce sera, je crois pas me tromper, la seule indication directe du Seigneur Jésus lui-même sur ce sujet, mais elle suffit. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça, c'est dit à des disciples, n'est-ce pas ? Prenez garde à vous-même. Alors, voyez, les excès du manger et du boire sont toujours en relation avec la vigilance. Et ces excès peuvent nuire à la vigilance, cet état spirituel d'attente du chrétien. Et puis enfin, dans Galates 5, 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables sont alors considérés comme les œuvres de la chair qui sont funestes. Les excès de table, vous voyez, font partie des œuvres de la chair et par conséquent sont quelque chose à rejeter. Alors, ceci étant dit, la sobriété, n'est-ce pas, vous voyez, cette sobriété qui est une nécessité constante, nous pouvons nous demander quelle sera la sagesse chrétienne en matière d'alimentation. D'abord, je répondrai à cette question, faut-il écarter les aliments carnés ? Parce que des gens comme les adventistes, ceux-là je les nomme, vous savez que les adventistes se sont lancés dans toutes sortes de prescriptions et de conseils d'alimentation. Certains de ces conseils sont bons. Ils ont même des maisons qui fabriquent des produits diététiques, des produits de régime. Qui est santé, il y a des maisons, plusieurs maisons qui fabriquent des produits et ils ont fait ça donc sur une très grande échelle. Et j'ai eu personnellement contact avec des adventistes assez souvent, non seulement des adventistes des membres, mais aussi des prédicateurs, des pasteurs, et je leur ai vu pratiquer le régime végétalien et s'y tenir et même le professer, le régime végétalien, c'est-à-dire rien que des végétaux, pas même des œufs, pas même du lait ou des fromages, n'est-ce pas, qui sont des aliments azotés et de provenance animale. Par conséquent, n'est-ce pas, ils voulaient uniquement des aliments de provenance végétale. Alors, faut-il, d'après l'Écriture, n'est-ce pas, c'est l'Écriture qui est notre règle, ce ne sont pas les préceptes de l'un ou de l'autre, eh bien, non pas. Écarter les aliments carnés d'office pour obéir, dirait-on, à la Bible, non. Si on les écarte pour d'autres raisons, ça c'est une autre affaire. Mais pour les écarter pour raison de conscience, eh bien je dis non. D'abord, voyons que Dieu les a donnés à l'homme jusqu'à la fin de cette économie, de ce siècle-ci, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est dans le chapitre 9 de la Genèse, et au verset 3, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Tout ce qui se meut, par conséquent, la vie animale. « Et qui a vie vous servira de nourriture. » Vous savez qu'avant le déluge, l'homme n'avait effectivement qu'une nourriture végétalienne. Les graines, les herbes, tout ce qui était produit végétaux. Et là, le Seigneur change, pour des raisons que nous n'allons pas analyser maintenant, puis enfin les raisons du Seigneur, elles sont souvent bien plus grandes, bien plus larges que celles que nous pouvons entrevoir. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne cela comme l'herbe verte, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà donc ce qui est dit. Cette alliance, c'est la première, c'est la grande alliance avec la vie. La grande alliance qui n'est pas révoquée et qui continue, c'est dans le cadre de cette alliance avec la vie que Dieu s'interdit de faire venir un déluge ou un jugement, n'est-ce pas, avant le terme final, le grand terme, avant la fin de ce siècle-ci. Par conséquent, si Dieu nous donne une alimentation carnée, pourquoi allons-nous dire qu'il est préférable à l'homme de s'en abstenir d'une façon générale? C'est réviser ce que Dieu a dit. Enfin, et c'est toujours mauvais de réviser quelque chose que Dieu a décrété. Dieu faisait d'ailleurs manger de la viande au peuple d'Israël, puisque notamment cette chose magnifique qu'était la Pâque, enfin, la Pâque c'était un signe extraordinaire au milieu du peuple d'Israël. Bien, la Pâque, c'est précisément un agneau pascal dont il faut manger la chair rôtie. Il faut manger la chair. Par conséquent, Dieu faisait manger de la viande au peuple d'Israël, non seulement la Pâque, mais la viande aussi des sacrifices et la viande de toutes sortes d'animaux. Le Lévitique nous donne une énumération et des moyens, donnait au peuple des moyens de distinguer entre les animaux purs et impurs, ceux qu'on pouvait consommer et ceux qu'on ne pouvait pas consommer. Alors, ce que Dieu a dit, ne le modifions pas sous prétexte de meilleure sagesse, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Nous pouvons dire que Jésus a mangé de la viande, il a mangé de la viande et il a mangé du poisson, il a mangé du poisson même ressuscité, quand il a dit à ses disciples, mais voyons, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit, qu'est-ce que vous avez à manger? Du miel et du poisson rôti, donnez-moi. Et il en mangea devant eux, n'est-ce pas? Par conséquent, il a mangé de tout cela, il a fait la Pâque, par conséquent, il a mangé l'agneau, la viande d'agneau rôti. D'autre part, il a été l'invité de Lévi, l'invité de Simon le pharisien, l'invité de Pierre, c'est la belle-mère de Pierre qui faisait la cuisine et qui servait, n'est-ce pas? Eh bien, là, il a mangé sans aucune observation la nourriture qui était coutumière dans son temps, la nourriture qu'on servait. Il a mangé cette nourriture, or nous savons qu'elle était assez largement carnée, assez fortement carnée. Il a même mangé avec les publicains, on le lui reprochait, il mangeait et buvait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Ah, ça, on a oublié d'en tirer une leçon, ça, on l'a oublié. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on nous ferait un grand grief si nous mangions avec certaines personnes. Il s'agit, bien entendu, de ne pas manger avec des frères, qui est des gens qui se nomment frères, n'est-ce pas, ne marchent pas selon la vérité. Mais il s'agit de manger, de pouvoir manger avec des gens du dehors, dans le but d'être un témoin au milieu d'eux. Pas dans le but de participer à leur débordement, mais d'être un témoin au milieu d'eux. Bon, alors donc Jésus a mangé, c'est pas la peine que j'insiste là-dessus, que je vois certains textes, Jésus a mangé la nourriture de son temps, et c'est une nourriture carnée. Il a même bu réellement du vin, n'en déplaise aux adventistes, je leur ai fait quelquefois la démonstration, mais vous savez, quand les gens sont butés sur une position, il n'y a rien à faire. Moi, j'avais une profession, n'est-ce pas, qui précisément était en relation étroite avec l'alimentation. Et je, par conséquent, n'est-ce pas, j'avais des laboratoires et je savais bien, je connaissais l'alimentation rationnelle, la diététique. J'appartenais même au groupe de Madame Lucie Randouin, doctoresse Lucie Randouin qui est morte maintenant, n'est-ce pas, son groupe d'études, et bien entendu les problèmes d'alimentation, je les connaissais puisque c'était là ma profession. Eh bien, les adventistes avaient le front de nous dire que ce que le Seigneur Jésus buvait, c'était du jus de raisin qui n'était pas fermenté. C'est une bêtise sans nom, chers amis. Une sottise. Parce que c'est impossible, ça. C'est impossible. Il est certain que le vin que l'on consommait était un vin alcoolisé. Peut-être c'était un vin de diffusion, produit par diffusion, c'est-à-dire avec participation de l'eau, mais il n'empêche que ça faisait des vins d'un certain degré, d'ailleurs ils ne se seraient pas conservés autrement. Il était impossible, surtout en Palestine, dans un pays chaud comme ça, de conserver du jus de raisin. La fermentation vinique est absolument impossible à réfréner parce que la levure elliptique qui fait fermenter le moût de raisin se trouve sur forme la pruine du raisin. Elle se trouve sur le raisin. Et vous ne pouvez pas laver chaque grain de raisin et le feriez-vous que vous n'arriveriez pas à l'éliminer. Par conséquent, vous mettez le raisin, vous y mettez la levure avec, la levure elliptique, vous ne pouvez pas empêcher ça, et avec la température, n'est-ce pas, ça se met à fermenter sans que vous y puissiez quelque chose. Que devient la distinction qui est faite dans le Lévitique entre animaux purs et impurs? Ai-je besoin de vous rappeler cette distinction? Elle occupe surtout le chapitre 11 du Lévitique. Vous savez que dans la loi de Moïse, il y avait certains animaux qui étaient à regarder, à considérer comme purs, d'autres comme impurs. Et ceux qui étaient purs, on pouvait les consommer, on consommait la viande. Ceux qui étaient impurs, on ne pouvait pas. Eh bien, était impur. Par exemple, je vous donne simplement des exemples, on ne va pas entrer dans l'étude de ce chapitre. Il y avait par exemple le chameau, le daman, le lièvre, le porc. Ah, le porc. Tout ça, c'était à considérer comme impur. Il y avait aussi les poissons qui étaient sans nageoire et sans écailles. Que ces animaux-là, le lièvre, le porc, les poissons sans nageoire et sans écailles, ne pouvaient pas être mangés. Il y avait l'aigle, le milan, l'autour, le corbeau, l'autruche, le hibou, la mouette, le cygne. Notez que tous ces animaux-là, en général, on ne les mange pas non plus maintenant. Ça doit être assez coriace. Et en tout cas, personne n'en mange. Seulement, il y avait, par exemple, parmi les animaux permis, les sauterelles. Et aujourd'hui, on n'aime pas beaucoup ça. On préfère les escargots qui, eux, étaient dans les animaux impurs. Alors, tous ces animaux étaient impurs. Et tous les autres, tous ceux qui n'étaient pas dans cette liste d'animaux impurs, il y avait certains critères, comme le pied fourchu et la rumination, qui étaient là pour faire certains distinguos. Mais à part cela, n'est-ce pas, tous les autres pouvaient être consommés. Alors, est-ce que cette distinction persiste? C'est dangereux de dire la loi de Moïse, croissons-la et mettons-la à la corbeille. Ça, c'est pas du tout ce que nous dit l'Écriture. C'est très dangereux de conclure comme ça. Nous avons étudié ici la loi et la grâce. La question se pose de savoir si vraiment il faut considérer tout ça comme nul et non avenu, comme quelque chose de révoqué. Eh bien, là, nous avons des indications, évidemment, assez précises. Nous avons d'abord l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, et verset 6. « Or, ces choses étant ainsi disposées, il s'agit de la première alliance et de ses ordonnances, Les choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc le littéralisme de cette distinction des animaux purs et impurs, je dis bien le littéralisme, lui a vécu. Il était à appliquer littéralement, hein, les ordonnances étaient à appliquer littéralement pendant toute l'alliance, pendant le cours de l'alliance faite avec le peuple d'Israël par Moïse. N'oublions pas que le peuple d'Israël constituait une nation et que la loi de Moïse était la loi du peuple, la loi pénale, la loi civile, aussi bien que la loi religieuse, n'est-ce pas? Eh bien, donc tout cela a vécu, mais il en reste pour nous une notion qui a sa valeur de distinction entre ce qui est pur et impur sur un plan essentiellement spirituel, mais qui peut être aussi, qui peut descendre aussi dans le matériel, dans le temporel même. Disons que pour nous, la distinction entre ce qui est pur et impur doit être faite. Mais cette distinction littérale des animaux, elle-même a vécu, elle est caduque. Elle est à considérer comme caduque, c'est ce texte nous le dit. Et puis, nous avons un autre texte, 1 Corinthiens 10, on le cite souvent ce texte-là, 1 Corinthiens 10, versets 25 et 26, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme, et tout ce qu'elle renferme. » Voyez-vous, par conséquent, là, ici, très explicitement, l'apôtre Paul nous dit, n'est-ce pas, que la terre renferme beaucoup de choses, eh bien, manger de ce qui se vend, mais ne faites pas de distinction par rapport à la conscience, par motif de conscience. Alors, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire ensuite. Est-il bon d'être végétarien ? Ou, si vous voulez, végétalien. La différence entre végétarien et végétalien, c'est que le régime végétarien est un régime qui admet, n'admet pas les viandes, mais qui admet certains produits animaux comme le miel, le lait, ou tous les dérivés du lait, et puis les œufs, n'est-ce pas? Les œufs, ce sont des produits d'animaux sans être la viande des animaux. Alors, voilà le régime végétarien. Le régime végétalien est plus strict, il supprime même tout ce qui vient de l'animal. Même si ce n'est pas la viande, l'œuf, le lait par exemple, il supprime tout ça. Le régime végétalien. Mais voyons ce que la Bible nous dit, faut-il être végétarien, c'est-à-dire proscrire absolument les viandes. Nous avons vu que le Seigneur nous les a données, que le Seigneur Jésus en a mangé lui-même. Alors, que va nous dire la Bible si elle nous dit quelque chose? Eh bien, voyons dans Romains 14, Romains 14, versets 1 à 3. « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Ah, voilà un conseil, ne pas discuter. Ah, qu'il n'y ait pas surtout de personnes qui disent à d'autres « Mais vous devriez manger ceci, vous ne devriez pas manger cela, oh, ça n'est pas bien, vous vous faites de ceci. » On peut donner, noter, si on est vraiment éclairé en conseil, vous pourriez peut-être essayer, vous pourriez peut-être tenir compte de ceci, cela, mais n'est-ce pas, ne rien imposer. « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Tiens, voilà, un végétarien, même un végétalien. ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli, et c'est ce que font les adventistes, ils vous jugent, quand ils vous voient manger de la viande ou boire un petit verre de vin, n'est-ce pas? Eh bien, ils vous considèrent en dehors de l'obéissance, ils vous jugent. Eh bien non, non, ça c'est absolument formel, c'est eux qui attirent le jugement sur eux, et non pas ceux dont ils font leur visée. S'il y a quelqu'un qui croit pouvoir manger de tout, bah laissez-le manger de tout, pourvu qu'il soit sobre, bien entendu. Mais un autre, n'est-ce pas, est faible, ne mange que des légumes, bah laissez-le, n'allez pas le chicaner, n'allez pas lui dire « Oh, mais mon ami, tu as tort, etc. » Laissez-le faire, n'est-ce pas? Par conséquent, on peut être végétarien ou ne pas l'être, cela dépend. Voyons les versets 13 de ce même chapitre. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Ah. Vous voyez, voilà encore quelque chose, n'est-ce pas, qui fait disparaître la distinction littéralement considérée des animaux impurs et impurs. Rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Nous verrons d'ailleurs, en continuant un peu demain cette étude, nous verrons que certains ont des convictions. Et que ces convictions, ben, s'ils les ont, ben, il faut les leur laisser. Les leur laisser. Ils vont croire qu'un aliment leur fait du mal, est impur, n'est pas bon pour eux. Ben, laissez-les. Pourquoi vous allez les détromper? Pour les mettre à votre niveau, à votre diapason? Non. Ah, la Bible nous dit non. Il n'y a pas cela à faire, n'est-ce pas? Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. J'aurai l'occasion, en conclusion de cette étude, de vous montrer que la primauté est à accorder au spirituel, et que accorder trop d'attention, trop d'intérêt, trop de répercussions au mode d'alimentation, c'est précisément changer de bord la primauté, n'est-ce pas, et la faire passer du côté matériel, et ça, c'est un grave tort. Il faut que la primauté reste au spirituel. C'est le spirituel qui est au-dessus de tout. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Si vous observez certaines consignes de sagesse, eh bien, la Bible nous dit, n'est-ce pas, n'attachez pas une importance considérable à vos aliments. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Toutes choses sont pures, il le répète, voyez-vous. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Si nous sommes en présence de quelqu'un qui ne veut pas manger de la viande et boire de vin, bon, on va manger des légumes avec lui, on va boire du vin avec lui, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire, ça? N'est-ce pas? On va boire, je veux dire, de l'eau, n'est-ce pas, avec lui. Mais ça m'est arrivé souvent. En Algérie, quand nous étions avec les Arabes, si je mangeais chez les Arabes, j'aurais pas amené ma gourde de vin. Enfin, ils n'en veulent pas. Bon, eh bien, on buvait de l'eau. Et on s'en trouvait très bien, n'est-ce pas? Et puis, il y a des choses qu'ils ne mangent pas, par exemple le porc. Ben, si j'invitais un arabe, ça m'est arrivé, n'est-ce pas? Inviter un arabe, j'aurais pas lui mettre du jambon ou des côtes de porc, n'est-ce pas, dans le repas. Non. Et c'est évident, n'est-ce pas? cette foi que tu as, garde-la pour toi, mon Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il éprouve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voyez-vous, nous devons agir donc selon des convictions, pas n'importe quelle conviction, pas des convictions empruntées à tel ouvrage et à telle école diététique, n'est-ce pas? Non, mais des convictions qui proviennent de la sagesse. Si par sagesse, si par même le fait que nous avons observé notre propre organisme, nous avons considéré que des choses nous étaient contraires, comme on dit souvent. Bon, nous avons cette conviction qu'une telle chose nous est contraire. Nous ne la mangeons pas. C'est sagesse. Eh bien, agissons d'après ces convictions-là. Donc la Bible nous laisse une grande latitude, voyez, dans le domaine de l'alimentation.